Chapitre 30. Île de Tristan d'Acunha, océan Atlantique. Les architectes s'affairaient. Ils étaient plus d'une trentaine, encadrant des centaines d'ouvriers. Le plus démentiel des chantiers. Vu de l'océan, l'image était impressionnante. Une fourmilière transparente émergeant au milieu de l'eau. Le bâtiment de verre s'élevait à plus de 900 mètres de hauteur au-dessus de l'île de Tristan d'Acunha. Il ne ressemblait en rien à ces tours élancées des grandes villes, hautes de plus d'un kilomètre, mais plutôt à un immense cube. À travers les parois vitrées, on découvrait un empilement de plateformes, reliées par un dédale d'escaliers s'encastrant parfaitement dans les reliefs de l'île volcanique. Galileo Nemrod et Artem Akinis se tenaient au point le plus élevé de Tristan d'Acunha, surplombant le cratère noir du Queen Mary's Peak. Les murs de verre entouraient de toutes parts le volcan, tel un foyer de cendres prisonnier d'un insert démesuré.
« Une fois achevé, précisa Galileo Nemrod, la nouvelle Babel sera haute d'un peu moins d'un kilomètre, avec une assise au sol prenant appui sur la majeure partie de l'île. Le plus vaste bâtiment jamais construit par l'homme, plus de 20 milliards de mètres cubes au total. Connaissez-vous la légende de Babel, commandant Akinis ?»
Artem secoua la tête, tout en fixant l'herbe incroyablement verte de la petite île montagneuse. On aurait dit qu'un morceau de Suisse s'était téléporté au milieu de l'Atlantique.
« C'est l'un des premiers récits de la Bible, » expliqua le président. « Il se déroule peu après celui du déluge. Toutes les grandes religions monothéistes y font référence, d'une façon ou d'une autre. En ce temps-là, les hommes dans le monde parlaient tous la même langue, ne formaient qu'un seul et même peuple, et comme symbole de leur union, ils décidèrent de construire une tour, la plus haute possible, dont le sommet toucherait le ciel. C'était un projet démesuré, une utopie. Mais puisque tous les hommes et toutes les femmes sur Terre s'associaient autour du même dessein, aucun rêve n'était impossible à réaliser. La Bible raconte que Dieu, vexé que les hommes puissent le défier, se contenta de brouiller leur langue. En se réveillant, un matin, les hommes furent incapables de se comprendre. On croit souvent que Dieu, dans sa colère, a détruit la tour de Babel. On se trompe. Ce sont les hommes, empêchés de communiquer entre eux, qui ont abandonné leur projet et se sont dispersés. Chaque peuple, recroquevillé autour de sa langue, s'est approprié un coin de la terre.
Le président surveillait les ouvriers qui travaillaient sur le chantier. Le soleil dessinait sur la peau de leur dos et de leur torse nu d'infinies nuances cuivrées.
Mais maintenant que tous les hommes parlent à nouveau d'une seule voix, rien n'interdit de terminer la tour de Babel.
Artem ne répondit rien. Il se contentait lui aussi d'observer à travers les parois de verre les ouvriers qui s'activaient partout sur l'île. Les plus éloignés, aux étages supérieurs, ressemblaient à des insectes coincés sous les lamelles d'un microscope. Micha s'était intéressé de près à cette cérémonie du centenaire, baptisée Nouvelle Babel. Elle avait fait tourner dans le Big Data de Pangaea le nom de tous les ouvriers, architectes, hommes et femmes participant de près ou de loin à ce projet, et étant autorisés à se téléporter sur Tristan d'Acunha. Parmi les milliers d'employés, un seul nom était ressorti. Elias Kiberville, un architecte ami d'enfance de Cléophée Loisel. Il était assis à côté d'elle dans le Maracanã, quand le stade avait été évacué. Ce n'était pourtant sûrement qu'une coïncidence. Elias Kiberville n'avait jamais commis le moindre acte délictueux de toute sa vie, pas une seule infraction. Rien qui permette de le soupçonner d'être complice d'un attentat terroriste ou d'être proche des Liberstados. Le président évalua encore longuement l'élégance de l'architecture de verre livrée à l'incessant vent d'ouest et aux vagues de l'Atlantique, avant de poursuivre doctement son récit.
On associe souvent Babel à la folie des hommes, à leur mégalomanie. En fait, c'est tout l'inverse. La tour de Babel est une métaphore. Qu'elle touche le ciel, dit la Bible. Mais cela ne signifie pas qu'elle devait être la plus haute possible. Babel est une espérance. Qu'elle touche le ciel signifie simplement que l'humanité vive à jamais en paix. Que la solidarité entre tous les terriens puisse se tisser avec la même empathie, le même lien d'amour que celui qui unit les hommes et femmes d'une même famille, d'un même village, d'une même nation. Telle est l'utopie de Babel, commandant Akinis, et peu importe si elle peut sembler ridicule formulée ainsi. Un monde sans guerre, un monde où nous serions tous frères.
ils marchèrent le long de la caldeira du volcan. Lentement. Le président prenait son temps. Artem, à l'inverse, déroulait dans sa tête la liste des urgences qu'il attendait pour que l'enquête avance. Il avait toute confiance en Babou et Micha, et il ne laissa paraître aucune impatience. Il savait que la parole de Galileo Nemrod était capitale. C'est l'utopie du président de l'OMD que voulaient ébranler ceux qui se tenaient derrière cette affaire, du massacre de Tetamanou au TPC clandestin et désormais les assignés. Nemrod pointa son doigt vers l'un des angles du prodigieux bocal de verre.
« Constatez, commandant, il n'y a aucune arrogance dans cette nouvelle Babel, bien au contraire. Elle sera haute de moins d'un kilomètre, bien moins que les tours qu'on construisait dans les années 2000, dans chaque mégalopole rêvant d'être plus puissante que sa voisine, comme jadis les clochers des cathédrales ou les beffrois des capitales. Elle était là, l'arrogance. Elle s'appelait concurrence, course infinie à la croissance. La nouvelle Babel sera au contraire le symbole de l'humilité des hommes face à la terre, face au monde, face à l'univers. »
Nemrod salua un groupe de tailleurs de verre qui posait une vitre en équilibre au bord d'un précipice.
« Nous avons besoin de symboles, commandant, de symboles forts. N'oubliez jamais que pendant des siècles, les États ont construit des imaginaires nationaux à grands coups de discours patriotiques, d'hymnes, de drapeaux, de services militaires et d'instituteurs dévoués à l'apprentissage des grandes dates de l'histoire, des cartes et des frontières. La méthode a fait ses preuves, elle est efficace. Pour préserver l'avenir de l'humanité, pas besoin d'en inventer une autre. Il faut simplement appliquer ces symboles à l'échelle de la planète entière.
Savez-vous que Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, écrivait que les hommes se croyaient bien plus importants qu'ils ne l'étaient, alors qu'ils occupent en réalité très peu de place sur la Terre, et que bien serré, on pourrait entasser l'humanité sur n'importe quel petit îlot du Pacifique. Croyez-le ou non, il disait la vérité. Des experts ont calculé tout cela avec précision. À raison d'une personne par mètre carré, on fait facilement tenir 10 milliards d'individus dans une boîte rectangulaire de 500 étages et de 5 kilomètres de côté. Et qui, comme le disait Saint-Exupéry, pourrait tenir sur un îlot perdu au milieu de l'océan? Ici.
Tristan d'Acunha, fit Artem.
Oui. Nous avons beaucoup hésité entre l'île de Pâques, Manhattan, Sainte-Hélène, mais Tristan d'Acunha, l'île la plus isolée du monde, à près de 3000 kilomètres de toute terre habitée, représentait un symbole parfait. C'est ce qu'a pensé le Congrès, tout comme la majorité des terriens. Tristan d'Acunha a été choisi par 39% de l'Ecclésia. À la minute où nous parlons, 63% soutiennent le projet de la nouvelle Babel.
Le commandant suivit des yeux les ouvriers tristanais qui assemblaient l'extraordinaire cité de verre. Aussi extraordinaire qu'éphémère. Elle servirait le temps d'une cérémonie unique lors du centenaire.
Ils étaient 74%, glissa Artem, avant l'annonce des risques d'attentat.
Peu importe, répliqua Nemrod. La nouvelle Babel est basée sur le volontariat. On ne forcera personne à se rendre à la cérémonie. La liberté de déplacement est le principe fondamental de la Constitution de 2058. Je ne vais pas vous l'apprendre. Même si seulement 60% des terriens participaient, cela représenterait 6 milliards d'êtres humains. Pas mal, non, commandant? Cela ferait déjà une belle photo.
Artem n'était pas aussi optimiste que le président.
Et si le risque d'attentat venait à s'ébruiter? Si l'on apprenait qu'un tueur se balade avec droit du sang dans la poche et le laisse en souvenir aux victimes qu'il a égorgées, ou que le trafic de TPC clandestin est bien plus important que ce que l'on croyait, sans parler des assignés? Le tout relayé dans l'Independiente Planète par Lilio de Castro. Cela pourrait dissuader les bonnes volontés.
Exact, commandant. Et c'est là que vous et votre équipe intervenez. Venez, venez avec moi.
Monastère Taungkalat, Mompopa, Birmanie. L'immensité de l'océan laisse sa place en moins d'une seconde à une mer végétale, agitée mollement par l'air sec de la mousson d'hiver. Le commandant Akinis évalua d'un regard professionnel le discret mais efficace dispositif de sécurité qui protégeait le monastère Taungkalat du Mont Popa. Une position de promontoire rocheux impossible à attaquer par surprise, des dizaines de militaires de la garde internationale postés dans la jungle alentour,
un espace privé strictement réglementé. Dès qu'ils se téléportèrent, marche 727, 5 gardes armés les entourèrent.
« Il est avec moi !» prévint Nemrod. « Commandant Akinis, il dirige le bureau d'investigation criminelle. »
Ça ne parut pas impressionner les vigiles. Le bureau d'investigation criminelle et la garde internationale étaient deux corps séparés, l'une dépendant de l'Organisation mondiale des déplacements, l'autre de l'Organisation militaire mondiale, même si l'une et l'autre dépendaient directement du président et du Congrès mondial. Ils gravirent l'escalier jusqu'au monastère, franchirent différentes portes et postes de contrôle, surveillés par les statues d'éléphants à quatre bras et les bouddhas sculptés. Il fallut encore passer trois nouvelles portes. Artem avait deviné où le président Nemrod l'invitait. Dans le cerveau de Pangaea, au cœur du dispositif régissant les déplacements de l'ensemble de la planète. Ce centre informatique sur lequel fantasmaient les ingénieurs, enquêteurs, esprits curieux du monde entier, Misha en premier. La grande majorité du reste des terriens, à l'inverse, s'en fichait, du moment que leur TPC fonctionnait et qu'ils pouvaient se téléporter à peu près où ils voulaient sans que personne ne puisse le faire chez eux. Artem entra. La pièce n'était pas si vaste, les ordinateurs pas si imposants. Dès qu'il avança, une silhouette féminine derrière son écran se retourna. Il n'eut pas le temps de se poser la moindre question. Le président se chargeait déjà des présentations.
« Commandant Akinis, voici ma fille, Pangaea. Ne soyez pas surpris. Quand il a fallu baptiser le nouveau programme informatique qui gérait nos mouvements en 2071, je lui ai tout simplement donné le prénom de ma fille unique, qui n'avait pas 6 ans à l'époque. »
Ne soyez pas surpris. Tout, au contraire, stupéfiait le commandant. Il s'attendait à découvrir une armée d'informaticiens en blouse blanche affairés tels des abeilles dans la ruche Pangaea, et il se retrouvait dans un temple birman, face à une femme d'une trentaine d'années, au visage d'adolescente, incapable de commander ses bras et ses jambes. Gêné, il détourna le regard en direction de la collection de tortues de pierre tout aussi incongrues qui ornaient les étagères les plus proches du terminal informatique.
« Pangaea n'est pas seulement ma fille unique, » précisa Nemrod. « Elle est aussi le plus grand génie vivant actuellement sur Terre. »
Galiléo n'ajouta rien. Il hésitait. Jusqu'où devait-il pousser les révélations ? Qu'avait besoin de connaître le commandant Akinis pour poursuivre son enquête. Le cerveau du président fonctionnait à toute vitesse. L'histoire de Pangaea défila. Il se revit, 30 ans plus tôt. Il n'était pas encore président de l'OMD, juste l'un des ingénieurs chargés de l'amélioration des conditions de téléportation. Les accidents étaient fréquents à l'époque. Le processus de désintégration-réagrégation manquait de fiabilité. Les effets secondaires étaient parfois tragiques. Cependant, les recherches sur la téléportation quantique progressaient à une vitesse extraordinaire, un peu comme l'informatique et les nanotechnologies à la fin du dernier millénaire. Galiléo Nemrod était chargé, pour l'OMD, de rechercher en permanence des cerveaux nouveaux. Les tests mondiaux d'aptitude intellectuelle permettaient de repérer les éléments les plus doués. L'un d'entre eux apparut un matin, sur un bilan de réussite scolaire élémentaire. Une fillette de 5 ans, née à Coimbatore, en Inde du Sud, surdouée parmi les surdoués. Un phénomène mondial de précocité. À l'instant où Galiléo la rencontra, il tomba sous son charme. Qui aurait pu croire que sous le crâne d'une enfant aussi mignonne et souriante se cachait une intelligence supérieure, un génie d'exception? Cette fillette elle-même l'ignorait, même si à moins de 6 ans, elle maîtrisait déjà les bases de la physique quantique et inventait des procédés rudimentaires de téléportation. Pour s'amuser, pour jouer avec sa poupée, en la transportant de la cuisine à son berceau sans prendre la peine de la pousser dans son landau. Galiléo était veuf. Cornelia ne lui avait laissé aucun enfant. Le cancer lui avait rongé l'utérus avant que la tumeur ne gangrène son foie, ses seins, sa thyroïde, son cerveau. Il n'avait pas hésité quand il avait croisé Pangaea pour la première fois.
« Pangaea est ma fille adoptive, » précisa Nemrod. « Je l'ai sauvée d'un orphelinat sordide de Podanur dans la banlieue sud-est de Coimbatore. »
Galiléo parvenait difficilement à retenir ses larmes, mais il ne put empêcher ses yeux de suivre la collection de tortues exposées sur les étagères. Artem Akinis, en policier discipliné, attendait que le président reprenne la parole. Pangaea, tournée vers son écran, se concentrait sur les nombres qui défilaient à une vitesse supersonique, donnant l'impression de lire une langue inconnue, codée, puis déchiffrée. Les tortues. Le plus beau et le plus douloureux souvenir de la vie de Galiléo. Pangaea n'était pas seulement intelligente, elle était aussi une petite fille vive, joyeuse, joueuse, qui adorait son papa. Son papa, très occupé par ses fonctions à l'OMD. Leur jeu favori était de se téléporter tous les deux jusqu'au point Nemo, ce point légendaire considéré comme le plus éloigné de toute terre émergée, au beau milieu du Pacifique. Ils s'y retrouvaient en emportant deux bouées, un simple matelas pneumatique pour Galiléo et une tortue gonflable pour Pangaea. Ils restaient ainsi de longues heures, bercés par les vagues, avec l'illusion d'être seuls dans l'univers à discuter de tout, de science principalement, et de la téléportation quantique en particulier. Le cerveau de Pangaea était toujours en activité. À 9 ans, elle maîtrisait déjà davantage les fondements de la physique quantique que son papa, pourtant titulaire d'une thèse sur le principe d'indétermination. Sans doute parce que Pangaea était l'un de ces cerveaux d'exception, comme la Terre en porte un par siècle. Peut-être aussi parce qu'elle voulait épater son papa, et surtout parce que Galiléo lui en demandait toujours plus. De nouvelles expériences, de nouveaux progrès. Pangaea devait se surpasser. L'humanité attendait. Des milliers de gens continuaient de se tuer sur les routes, en voiture, en moto, de se noyer en bateau. La téléportation humaine n'était pas complètement stabilisée et encore moins démocratisée. Cette fois, Nemrod laissa ses larmes couler. Tant pis si ce policier s'en apercevait. Les carapaces des tortues se brouillèrent devant ses yeux embués. Jamais Galiléo n'était retourné au point Nemo depuis ce 13 septembre 2075. Les dernières semaines précédant ces 10 ans, Pangaea avait fait des progrès inouïs. Elle avançait aussi vite que des équipes entières d'ingénieurs travaillant pour l'OMD. Son père était si fier, elle voulait sans cesse l'impressionner. Elle travaillait sur la miniaturisation des TPC. C'était essentiel pour que les gens puissent les porter comme une montre à leur poignet, et maîtriser à tout instant leurs déplacements. Elle avait conçu un prototype qui ressemblait, à s'y méprendre, à celui utilisé par les milliards de terriens aujourd'hui. Elle voulait en faire la surprise à son papa. Elle lui avait dit, en serrant sa tortue gonflable entre ses bras, au cœur des bureaux de l'OMD, sur la First Avenue de Manhattan, « On se retrouve là-bas, papa, au point Nemo, le premier arrivé à gagner. » Avant qu'il ait pu répondre, Pangaea avait disparu. Galiléo arriva le premier au point Nemo, sur son ridicule matelas pneumatique perdu au milieu du Pacifique. Aucune trace de Pangaea. Il avait gagné. Il avait tout perdu. Pangaea se réintégra une seconde plus tard à côté de lui, allongé sur sa tortue, inanimé, inondé du sang qui coulait de son nez et des veines violacées explosées sous ses tempes. Le processus de désintégration-réagrégation n'avait pas parfaitement fonctionné, une infime erreur de calcul, mais qui engendrerait des conséquences irréparables. Les plus grands médecins de la planète amérirent dans les secondes qui suivirent au point Nemo. Pangaea n'était pas consciente. Leur diagnostic fut rapide. Les capacités cérébrales de Pangaea n'étaient pas touchées, mais toutes les terminaisons nerveuses de ses membres étaient grillées. C'est le terme précis qu'employa le neurologue. Pangaea resterait à jamais handicapée, et surtout, les médecins étaient formels. Plus jamais elle ne pourrait se téléporter. La moindre désintégration, réagrégation, lui serait fatale. Le cerveau de Pangaea était comme un puzzle en équilibre, reconstitué par miracle, mais que le moindre mouvement éparpillerait définitivement. Il fallut 10 jours pour rejoindre en bateau l'île Pitcairn, la première terre émergée à 2600 km du point Nemo, puis 20 jours supplémentaires pour rejoindre Fuzhou, sur la côte est de la Chine. Les dernières ambulances qui roulaient se relayèrent pour traverser l'Asie, jusqu'en Birmanie. Il fallut 8 hommes pour la porter du pied au sommet du mont Popa, 777 marches dont Pangaea ne sortirait plus jamais. Galiléo avait tenu la main de sa fille pendant tout le voyage. Il avait eu le temps de se repasser le film de toutes ces dernières années. Tout était de sa faute. À cause de lui, Pangaea deviendrait l'une des seules terriennes à ne plus jamais pouvoir se déplacer, pas même se lever de son siège. à cause de son ambition. Elle était trop jeune, elle n'était pas consciente des risques qu'elle prenait. Galiléo aurait dû la protéger. À l'inverse, il l'avait utilisée, poussée jusqu'aux limites de ses capacités. Il en avait fait une machine. Galiléo observa sa fille, les fils branchés au bout de ses doigts, reliés à la mémoire de l'ordinateur central de Pangaea. Une machine. Puis les années étaient passées, et il s'était posé une autre question, atroce. Et si Pangaea n'avait pas été victime de cet accident, il y a 22 ans? Et si elle n'avait pas été condamnée à rester attachée devant un écran? Et si son intelligence exceptionnelle n'avait pas été à ce point concentrée sur un seul objectif, la téléportation quantique? Les progrès de l'humanité auraient-ils été aussi rapides? L'intelligence de Pangaea ne se serait-elle pas perdue comme celle des autres adolescentes de son âge? Ne se serait-elle pas dispersée, diluée, occupée à se déplacer partout sur la planète, à zapper, à surfer égoïstement sur chaque beauté du monde, à profiter, mais pas à se sacrifier? Et si l'accident de Pangaea avait été la plus grande chance de l'humanité? Depuis des années, cette question le hantait. Galiléo essuya ses yeux d'un revers de manche en se tournant vers sa fille et le commandant Aquinis. Ce policier obéissant n'avait pas eu le temps de remarquer quoi que ce soit. La traversée de ses souvenirs n'avait duré que quelques secondes. Le cerveau, au fond, permettait de voyager dans le temps aussi rapidement qu'un TPC dans l'espace, et de plus en plus vite, de plus en plus loin, au fur et à mesure qu'on vieillissait. Le président fouilla dans sa poche et en sortit une petite tortue de jet qu'il posa sur le bureau de sa fille. Pangaea se retourna, tout sourire. « Merci, papa. » Elle pivota son cou, seulement son cou et son visage, vers Artem. « Et en ce qui concerne mon supposé génie, je vous assure, commandant, mon père exagère beaucoup. » Ils restèrent silencieux de longues secondes, avant que Galiléo Nemrod ne reprenne la parole.
« Je vous dois des explications, commandant Aquinis. »
Artem ne répondit rien, respectant une réserve professionnelle devant son supérieur.
Tout d'abord, à propos de la liste de noms retrouvés chez Tan Prao, ceux que certains journalistes ont surnommés les assignés, et que nous appelons plus prosaïquement des prisonniers en liberté partielle et surveillés. Ils sont sous le contrôle de l'autorité de l'Organisation militaire mondiale.
Nemrod planta son regard, sans ciller, dans celui du commandant.
Le Congrès n'a pas cru bon de devoir tenir informés les services du Bureau d'investigation criminelle. Le dossier a été classé secret défense.
Le commandant Aquinis ne tiqua pas. Il n'était pas de son ressort de discuter les décisions du Congrès mondial.
Mais, poursuivit Nemrod après une hésitation, aujourd'hui il me semble important que vous soyez au courant.
Comptez sur ma discrétion et celle de mon équipe, assura Artem d'une voix neutre.
Je n'en doute pas.
Nemrod, sans cesser de caresser la carapace de quelques tortues d'ambre et de nacre, adressa un sourire à sa fille, puis se lança.
Ces hommes et ces femmes en liberté partielle se sont vus interdire toute téléportation humaine par un tribunal militaire, en raison de la menace qu'ils faisaient peser sur l'ordre mondial. Cette dangerosité peut être d'un niveau variable. Elle va de l'incitation à la haine et au terrorisme, comme ce qui est reproché au plus fameux d'entre eux, Ossian, à la contestation des principes fondateurs de la Constitution de 2058, par voie de dégradation de l'espace public, de manifestation, voire de propagande active. En résumé, la frange la plus extrémiste des nationalistes, régionalistes, indépendantistes, aujourd'hui regroupée sous le nom de Liberstados.
Artem s'efforçait de ne rien laisser paraître, enregistrant les informations avec un maximum de concentration.
En clair, précisa Nemrod, visiblement soucieux de se justifier auprès du commandant du BIC, il s'agit d'individus qui refusent notre façon de vivre, ouverte et mondialisée, continuent de revendiquer leur langue, leur terre, leurs frontières, et qui seraient vraisemblablement prêts à se battre pour les défendre si on leur en laissait l'opportunité. Je vous assure, Aquinis, ils ne sont pas maltraités. Leur prison est vaste, de 3 millions de kilomètres carrés. Ils y vivent en totale liberté, tant qu'ils ne cherchent pas à communiquer avec l'extérieur et à propager leur idéologie séparatiste.
La paix du monde est à ce prix, commandant. Croyez-le. La paix du monde est à ce prix. »
Artem ne commenta pas davantage le plaidoyer du président.
« Qu'attendez-vous de moi ?»«
Une première chose, commandant. Ce journaliste, Lilio de Castro, accompagné ou non de cette femme, Cléophée Loisel, ne doit pas atteindre la terre des assignés. Qu'ils puissent révéler leur existence, avec preuves, entretiens et photos à l'appui, provoquerait un cataclysme médiatique et politique. Surtout avec la popularité que l'Independiente Planet a acquise. Comprenez bien, l'opinion fonctionne par cycle. Chaque fois que dans son histoire l'humanité a franchi une étape fondamentale, il s'agisse de la démocratie, de la paix ou de la liberté de déplacement, l'opinion en oublie le coût, les avantages, pour n'en plus voir que les limites et les défauts. Appelez ça comme vous voulez, désenchantement ou caprice d'enfant gâté, peu importe. Mais l'opinion mondiale est aujourd'hui ouverte au doute et au questionnement. Les générations actuelles ne se souviennent plus de ce qu'était le monde d'avant, le monde balafré par les frontières et les égoïsmes nationalistes. Elles sont prêtes, en partie au moins, à se laisser séduire par le discours néo-territorial. C'est si facile, depuis que le monde existe, transformer cette quête d'identité que chacun éprouve de façon si naturelle en une dialectique qui consiste à protéger les siens et haïr ses voisins.
Artem ne scia pas, mais ne put s'empêcher de penser que Nemrod, en accordant un entretien à Lilio de Castro, avait contribué comme jamais à la popularité de l'Independiente Planet et offert aux journalistes une sacrée publicité, doublée d'une incontestable légitimité. Il se contenta de répondre sobrement.
« On le retrouvera, président. Lui et la femme. Nous disposons déjà d'une piste. »«
Bien. Il est tout aussi important, nous sommes d'accord, de capturer ce tueur que vous avez baptisé Khan. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un psychopathe isolé ou que... »
Le président ne termina pas sa phrase. Artem le tira de l'embarras.
« Rien ne permet de penser qu'il n'agit pas seul, même si... »
Artem hésita une seconde.
« Même si on ne comprend pas comment il a pu se téléporter à proximité de Tetamanu, puis du Kyber Himalayan Resort, sans laisser aucune trace sur Pangaea. »
Il évita, en prononçant ce mot, de regarder la fille absorbée par son écran.
« Le capitaine Kim, mon adjointe spécialisée dans les serveurs informatiques, a tout vérifié, sans rien trouver. »
Et, pour tout vous avouer, président, nous comprenons encore moins comment Khan est parvenu à nous échapper en se téléportant du bureau de Tan Prao. » Nemrod allait répondre, fronçant les sourcils, mais sa fille prit la parole avant lui.
« J'ai vérifié, moi aussi, dans Pangaea. Le programme, je veux dire, pas moi. »
Elle fixa un instant son père, mi-espiègle, mi-fâché, comme pour lui reprocher d'avoir donné son prénom à la base de données la plus célèbre au monde.
« Et ?»
enchaîna Pangaea.
« Rien. Aucune trace de votre tueur, même en remontant aux racines du programme. » Un algorithme a analysé un à un chaque mouvement à des centaines de kilomètres de Tetamanu et de Gulmarg, chacun des déplacements. Et rien, aucun ne correspond à votre tueur. Khan est un fantôme.
Et s'il utilisait un TPC clandestin, suggéra Artem.
Les paupières de Pangaea battirent, l'équivalent sans doute d'un haussement d'épaule.
Évidemment, commandant. C'est sûrement le cas. Mais aucun TPC ne peut fonctionner sans le nom d'un individu associé. Nous avons vérifié les identités de tous les terriens qui ont laissé une trace à proximité. Toutes. Aucune ne correspond à Khan.
Artem prit un temps de réflexion. Cette fille l'impressionnait.
Et, demanda le commandant, s'adressant désormais moins au président qu'à sa fille, « comment comptez-vous vous y prendre avec les TPC clandestins ?»
Une inquiétude assombrit le visage de Pangaea.
« J'ai déjà bloqué tous ceux des personnes décédées retrouvées dans la favela de Rio, ainsi que ceux des victimes enterrées sous la neige autour du Kyber Himalayan Resort. Par contre, il est impossible de savoir combien d'autres terriens ont été assassinés par les hommes de Tan Prao, tant que nous n'avons pas retrouvé leurs corps. Quelques dizaines? Quelques centaines? Quelques milliers ? »
Le président Nemrod paraissait gêné par la franchise de sa fille. Artem, au contraire, l'appréciait. Son regard se perdit dans le décor étrange qui les entourait.
et s'arrêta sur la crinière orange d'un singe lion qui, accroché au bras de la statue d'une déesse hindoue assise sur une fleur de lotus, les observait avec méfiance de ses deux yeux verts globuleux. Pangaea parlait sans filtre ni arrière-pensée politique. Jusqu'où le commandant pouvait-il la solliciter? Une question le taraudait qu'il peinait à formuler. Elle dépassait de loin sa compétence et pouvait passer pour de l'impertinence. Après une longue hésitation, il parvint à se lancer.
« Excusez-moi, président et Pangaea, dans le contexte actuel, ce tueur, les assignés, ces TPC clandestins dans la nature, d'un point de vue, disons, strictement sécuritaire, ne croyez-vous pas qu'il vaudrait mieux renoncer à la cérémonie du centenaire? La nouvelle Babel, on pourrait simplement, cette fois encore, avant même que le président n'ouvre la bouche, Pangaea s'exprima.
Les mots se bousculaient dans sa bouche, presque aussi rapides que les lignes de code qui clignotaient sur son écran. « Non, commandant. Avez-vous entendu mon père? Les terriens ont besoin de symboles forts. S'ils ne se sentent plus appartenir à un seul monde, à un seul peuple, ils inventeront d'autres communautés, et tout sera fichu, tout sera à recommencer. Écoutez-moi bien, Artem Akinis, je suis bloqué sur cette chaise depuis plus de 20 ans. J'ai passé ma vie à construire un monde ouvert, à en détruire une à une les barrières. Je l'ai payé cher. Renoncer aux cérémonies du centenaire, à la nouvelle Babel, ce serait céder à ces hommes, quels qu'ils soient. Ce serait céder à la peur. Ce serait renier le fondement même de ce que l'humanité a gagné. »
La sincérité de Pangaea toucha Artem. Elle avait raison, au fond. Lui, comme les autres, oubliait combien cette liberté de se déplacer avait été difficile à obtenir. Pour qu'il puisse faire son jogging du matin en Tasmanie, en Islande ou sur la cordillère des Andes, combien de savants, de pionniers, de la physique quantique, de philosophes, des utopies mondiales avaient dû batailler, se sacrifier parfois pour triompher des vieilles certitudes. Le président Nemrod esquissa un sourire satisfait, puis baissa les yeux vers son poignet, signe que l'entretien était terminé.
« Ce sera tout, commandant. Deux choses, donc. Retrouver ce tueur et surtout ce journaliste. »
« Nous ferons tout ce qu'il est possible de faire, » affirma Artem. Il hésita, toucha à son tour une tortue de jade pour se donner du courage, puis osa une ultime bravade.
« J'ai une dernière question, président. Le lieutenant Diop vient de me transmettre un nouvel élément. On a retrouvé une inscription sur l'un des pins pleureurs, près du Kyber Himalayan Resort, récente. Les lettres dans l'écorce étaient collantes. Tout porte donc à croire que c'est Khan qui l'a gravé.
Quelle inscription?
La même qu'à Tetamanu sur le cocotier. Pichipoy.